Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. La Première Guerre mondiale a débuté voici tout juste 100 ans. Son impact sur le monde de l'époque a été considérable et n'a pas épargné le Moyen-Orient. C'est pourquoi Orient Hebdo a choisi de revenir sur 4 épisodes de cette guerre qui se sont déroulés dans la région ou sa proche périphérie et qui ont eu, sans conteste, d'importantes répercussions. Troisième volet ce samedi, les campagnes de Palestine et de Mésopotamie. Récit assuré aujourd'hui par l'historien Henri Laurence, membre du Collège de France. Alexandre Bouchanti nous emmène lui aussi dans une autre série à travers l'histoire, celle des communautés étrangères d'Égypte. La quatrième partie est consacrée à la communauté soudanaise. Quant à Michel Paul, il nous parle des hôpitaux de Jérusalem qui ne chôment pas en ce moment.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous avons évoqué la semaine dernière avec Jean-Yves Le Naour la campagne d'Égypte et la révolte arabe. La campagne de Palestine, Henri Laurence, c'est la suite de cette offensive britannique depuis le sultanat d'Égypte vers la Palestine ottomane.
Oui, alors en fait elle a plusieurs étapes, étant donné que la bataille des Dardanelles, les troupes britanniques ne sont pas disponibles avant longtemps pour une attaque sur le front palestinien. Donc vous avez entre 1915 et 1916 quelques opérations dans le Sinaï. Et c'est surtout une question de logistique pour l'armée britannique qui traverse le Sinaï en 2 ans parce que elle progresse par petits bonds. Ensuite, il faut mettre une ligne de chemin de fer, une ligne de tuyaux d'eau pour alimenter les troupes. Ça signifie que c'est qu'au début de 1917 que l'armée britannique entre pour de bon en Palestine, et ça conduit aux premières et deuxièmes batailles de Gaza, dans lesquelles les Britanniques n'arrivent pas à passer la ligne de tranchée de l'armée ottomane. Donc le front se stabilise au début du printemps 1917, et le gouvernement britannique décide alors un changement complet du commandement de l'armée britannique en Palestine et nomme le général Allenby, un général de cavalerie qui est proche de ses hommes. Et donc Allenby prend ses fonctions avec pour mission, donnée par Lloyd George, de donner Jérusalem comme cadeau de Noël au peuple britannique. Et donc il prépare soigneusement son offensive. Il fait une feinte à la fin de l'été pour faire croire qu'il va réattaquer à Gaza, mais en fait il attaque dans le Negev, et en effet le front ottoman se disloque à ce moment-là, mais les Ottomans entament une retraite ordonnée qui va les conduire à refaire une ligne d'arrêt au nord de Jérusalem, ce qui explique que l'armée britannique entre à Jérusalem au début de décembre 1917. Alors, après cette prise de Jérusalem, les troupes britanniques s'arrêtent d'abord parce que c'est un hiver, et un hiver très froid, il y a beaucoup de neige. Et ensuite, parce que au début de 1918, tout le monde comprend que le sort de la bataille réelle se joue sur le front de l'Ouest avec les grandes offensives allemandes de Ludendorff. Et donc, que tout le monde attend les succès ou les insuccès européens, et puis à partir du mois d'août, la victoire alliée semble acquise en Europe, et au début septembre, l'armée d'Allenby de nouveau entre en marche, en même temps d'ailleurs en synchronie avec l'armée française d'Orient à Salonique. Les deux armées bougent et disloquent leur ennemi en même temps, ce qui est un facteur supplémentaire qui va conduire au 11 novembre 1918.
Alors, en attendant, le 11 novembre 1918, il y a le coup de grâce qui est donné à l'armée ottomane dans cette région, c'est la bataille de Megiddo.
Oui, Allenby fait la démarche inverse, il fait croire qu'il va attaquer dans l'intérieur, il attaque sur le littoral, et puis ensuite il revient sur l'intérieur. L'armée ottomane est complètement disloquée, et en quelques semaines, en fait, les Ottomans évacuent toute la Syrie pour prendre position sur une ligne d'arrêt sur le Taurus, au début de l'Anatolie, mais à ce moment-là, la guerre est déjà terminé. Ce qu'il faut noter, c'est l'extraordinaire supériorité en matériel et en hommes de l'armée britannique qui combat à 3 ou 4 contre 1 avec un ravitaillement assuré, tandis que les troupes ottomanes, encadrées de quelques officiers allemands, vivent dans des conditions absolument misérables. Du point de vue militaire, la résistance des soldats turcs a été absolument exceptionnelle durant ces 2 années de guerre de Palestine.
Alors, parallèlement à ça, il y a plus au sud la prise d'Aqaba. C'est une mission qui avait été confiée à un certain officier de renseignement qui s'appelle Lawrence, c'est-à-dire c'est le fameux Lawrence d'Arabie.
Oui, c'est à la fois une petite anecdote, mais surtout, elle arrive au bon moment, c'est-à-dire au moment de la nomination de l'ENB, et elle permet à l'ENB de disposer d'une aile droite en Transjordanie, sur lequel quelques troupes ottomanes peuvent être fixées. Cela dit, même si c'est un certain intérêt militaire, c'est surtout l'aspect politique qui compte dans le cadre du jeu des puissances sur l'avenir du Proche-Orient.
Alors, parallèlement à cette campagne de Palestine, Henri Lawrence, les troupes britanniques sont engagées dans la campagne de Mésopotamie, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça commence plutôt mal pour eux en 1915.
Oui, alors là, la situation différente, c'est l'armée des Indes, qui a le projet d'annexer l'Irak à l'Inde. On est très loin de Londres à ce moment-là. Alors, dès novembre 1914, l'armée britannique débarque dans la région de Basra, Koweït, ceci pour assurer la sécurité du Golfe et aussi des champs pétrolifères qui sont déjà exploités en Iran. Et puis ensuite, l'armée britannique remonte progressivement la vallée de l'Euphrate, mais sa logistique est assez déficiente et finalement, les troupes les plus avancées perdent le contact avec les troupes de l'arrière dans une marche sur Bagdad et se trouve à leur tour bousculé, puis encerclé à Kout. Et après plusieurs semaines d'encerclement, les troupes britanniques doivent capituler.
Ensuite, c'est un changement, on change le général britannique et on remet des troupes en état. Et que se passe-t-il ensuite ?
Oh, ben, c'est une remontée tout à fait progressive. Là, en 1917, le général Maud prend Bagdad et puis on continue une progression lente qui fait que à la fin des hostilités, les Anglais sont encore loin de Mossoul et ils n'occuperont Mossoul et les vilayets de Mossoul qu'après l'armistice de Mudros avec les Ottomans, ce qui posera des problèmes juridiques dans les arrangements d'après-guerre.
Alors justement, l'après-guerre, quelle est la carte finalement de cette région-là à l'issue de la guerre 14-18? Qu'est-ce qui a changé vraiment?
Alors, ben, il y a eu un empire qui avait plusieurs siècles d'existence dans la région qui a disparu et à sa place de cet empire, on met en place des États qui sont des États sous mandat, soit français, soit britannique. Mais j'insisterai surtout sur le fait que la région a été complètement dévastée par la guerre, les blocus, il y a eu des famines, des épidémies, des centaines de milliers de morts, une économie qui a été détruite. Quand les armées alliées, enfin surtout britanniques, progressent en 1918, en particulier en Palestine et en Syrie, c'est presque du sauvetage de population. Nous avons des photographies qui représentent des spectacles de famine d'Africaine d'aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, en 2014, qu'est-ce qui reste de cette fin de guerre et qu'est-ce qui est encore dépendant de ce qui s'est passé pendant cette guerre 14-18?
Bon, il est resté une expression symbolique qu'on dit sex-pico, même si évidemment c'est pas sex-pico qui en sont responsables et que l'arrangement final est la conférence de San Remo en avril 1920 qui est assez loin des accords dits sex-pico, mais c'est devenu le symbole de la division de la région en États et des mainmises européennes sur cette région du monde.
Autant de choses qui aujourd'hui sont en train de disparaître.
Je ne suis pas sûr de cela. Je pense que le découpage global de San Remo se maintiendra parce qu'il a maintenant un siècle d'existence. Il a créé des populations, des États, des citoyennetés, des identités, des histoires différentes. En revanche, il est tout à fait possible que dans ce cadre-là, des formes de scission de territoire à l'intérieur sous forme de fédération, de confédération, de régionalisation, là, sont tout à fait possibles.
Par exemple, le Kurdistan ou par exemple, une sorte d'alliance entre l'Irak et la Syrie.
Ou non, disons plutôt que, par exemple, il y a des possibilités actuelles d'une scission de l'Irak en trois entités. De même, on peut penser qu'il y a des risques en Syrie de division territoriale. Mais je ne vois pas, par exemple, les frontières de la Syrie ou de l'Irak ou de la Jordanie être mises en cause.
Henri Laurence, la mémoire des familles au Proche-Orient, la mémoire de cette première guerre mondiale, la Grande Guerre, est très différente de la mémoire des États. Pourquoi ?
Bien parce que, en fait, l'essentiel de la région est resté dans le système ottoman jusqu'aux dernières batailles, et donc l'effort de guerre ottoman a pompé les ressources physiques et humaines de la région. Il y a eu des épidémies, des famines, des destructions extrêmement considérable. Donc, dans la mémoire des familles, c'est un temps de souffrance, un temps d'épreuve. On a dit Sefer Belik pour le nom qui signifie la mobilisation ottomane, l'effort de guerre ottoman. Alors que les États, eux, sont nés en théorie d'une révolte contre de l'Empire ottoman, mais c'est une révolte qui avait regroupé beaucoup moins de gens que le nombre de soldats ottomans arabes dans l'armée ottomane. Donc, ces milliers de soldats arabes qui sont morts dans l'armée ottomane et tous ceux qui ont fait la guerre dans l'armée ottomane n'ont eu aucun symbole mémoriel. Leur mémoire a été complètement cachée. Pas de monument aux morts, pas d'acte de triomphe, rien. Ce que l'on célèbre, par exemple, à Damas et à Beyrouth, ce sont les places des martyrs, c'est-à-dire les notables qui ont été pendus par les Ottomans pour autonomisme en 1915 et 1916.
Merci Henri Laurence, professeur au Collège de France, spécialiste de l'histoire contemporaine du monde arabe.
Orient Hebdo sur RFI.
Quatrième volet de notre série sur les communautés étrangères d'Égypte. Avec vous, Alexandre Boutchanti, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui donc, les Soudanais, la plus ancienne des communautés étrangères en Égypte, une présence qui remonte à près de 4500 ans, Alexandre.
Oui, avec le premier royaume de Kerma qui occupe l'actuelle Nubie soudanaise et les peuplades qui étaient situées au nord et qui formaient une sorte de garde-frontière mercenaire pour l'ancien empire égyptien. Alors durant des millénaires, cette région passera du règne de dynasties locales comme Kouch, Napata, Meroé à la domination égyptienne et vice-versa. Les Soudanais partent même à la conquête de l'Égypte il y a quelques 2800 ans et fondent l'éphémère 25e dynastie dont le royaume s'étend de Khartoum au sud à la Méditerranée au nord. Alors la frontière se stabilise avec la conquête romaine de l'Égypte au début de notre ère et le commerce est florissant dans les deux sens. Les relations s'effondrent avec la conquête arabe et l'islamisation de l'Égypte. Les royaumes chrétiens du Soudan, eux, s'effondrent vers le XIVe siècle et le Soudan est islamisé.
Mais c'est avec Mehmet Ali, au début du XIXe siècle, que s'établit vraiment la communauté soudanaise moderne en Égypte.
Oui, le vice-roi envoie en 1820 son fils à la conquête du Soudan. Mehmet Ali a deux objectifs, obtenir des soldats pour son armée et sécuriser les sources du Nil. Alors, des milliers de Soudanais sont enrôlés de gré ou de force chaque année dans l'armée égyptienne et les Soudanais se révoltent à la fin, aussi à cause des taxes, et conduits par le Mahdi, ils prennent Khartoum en 1885. Un corps expéditionnaire anglo-égyptien conduit par le général anglais Kitchener écrase la rébellion et établit le condominium anglo-égyptien sur le Soudan en 1899. Alors jusqu'au 1er janvier 1956, date de l'indépendance, le Soudan sera une province égyptienne avec une disparition de la frontière qui amènera beaucoup de Soudanais à émigrer vers une Égypte plus riche.
Alexandre, qu'en est-il de la communauté soudanaise aujourd'hui en Égypte ?
C'est la plus importante communauté soudanaise en dehors du Soudan et la plus importante communauté étrangère en Égypte. On l'estime à près d'un million et demi de personnes. Les Soudanais n'ont pas besoin de permis de résidence ni même de visa, sauf en période de tension entre le Caire et Khartoum. Et puis, les Soudanais sont disséminés un peu partout en Égypte, mais la plus importante communauté se trouve au Caire. Alors parmi les Soudanais célèbres, il y a le premier président égyptien, Mohamed Naguib, qui était d'origine soudanaise, et le président Sadat, qui était soudanais par sa mère. Alors aujourd'hui, la plupart des Soudanais sont dans le commerce ou dans les métiers manuels ou même subalternes. Une vague de retour vers le Soudan qui s'était enrichi avec le pétrole avait commencé, mais reste hésitante du fait des soubresauts politiques à Khartoum.
Les Soudanais, quatrième volet de notre série sur les communautés étrangères d'Égypte. Merci Alexandre Boutchanti.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr. There's nothing to do here, some just whine and complain. In bed at the hospital. Coming and going, asleep and awake. In bed at the hospital.
Après le Caire, nous prenons la direction de Jérusalem où nous attend Michel Paul. Bonjour Michel.
Bonjour Eric.
Et nous restons avec vous à Jérusalem ce samedi, puisque vous nous parlez d'une curiosité de la ville plutôt méconnue, les hôpitaux.
Jérusalem, ville des hôpitaux et des hospices, un détail que l'on ne connaît pas toujours. Et oui, Eric, c'est une particularité de la ville sainte. Elle compte un grand nombre d'établissements hospitaliers privés, oui, privés. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun hôpital gouvernemental à Jérusalem. Alors historiquement, certains des établissements qui existent dans la ville remontent, du moins dans leur tradition, au XIIe et XIIIe siècle, la période des croisés. L'autre aspect, le plus important bien sûr, est la division de la ville est et ouest, ou en d'autres termes, les centres hospitaliers orientés vers telle ou telle partie de la population, les Israéliens et les Palestiniens.
Jérusalem, ville divisée également par les soins hospitaliers, Michel.
C'est surtout dans la partie orientale de Jérusalem que se multiplient les hôpitaux, en général de modeste capacité. Les deux plus grands établissements palestiniens sont situés aux abords du Mont des Oliviers, El Mokassed et Augusta Victoria. Situation géographique problématique pour les patients et aussi pour une partie du personnel en raison du mur de séparation israélien qui empêche ou dans le meilleur des cas contrôle les passages, y compris des ambulances. La population palestinienne qui vit en dehors de Jérusalem, donc de l'autre côté de la barrière de sécurité, doit se munir d'autorisations spéciales, parfois difficiles à obtenir, et exigeant dans tous les cas des démarches administratives longues et souvent compliquées. Il y a d'autres petits hôpitaux qui dépendent d'autorités religieuses. C'est le cas de deux établissements français tenus par des ordres religieux, l'hôpital Saint-Joseph et le centre Saint-Louis, fondé il y a plus de 150 ans par le consulat français de Jérusalem et qui se spécialise dans les soins palliatifs.
Mais à côté de ces petits établissements, Michel, il y a aussi de grands centres hospitaliers.
Shaaré Tzedek et Hadassa sont les deux plus grands hôpitaux de la ville. Ils desservent les populations des deux parties de Jérusalem. Hadassa possède même un grand centre hospitalier sur le Mont Scopus qui répond particulièrement aux besoins des habitants de Jérusalem-Est et dont une bonne partie du personnel est palestinienne. Shaaré Tzedek et Hadassa vivent en grande partie, pour ne pas dire exclusivement, de donations, notamment en provenance des États-Unis. Et c'est cela, Eric, le gros problème.
Disons-le clairement, Michel, un gros problème financier pour l'hôpital Hadassa.
Oui, Hadassa, principal hôpital de Jérusalem et plus grand établissement hospitalier du Proche-Orient, est en cessation de paiement. Il y a quelques mois, il était sur le point de fermer ses portes. À l'heure actuelle, il est dirigé par un liquidateur de biens. Nombre de ses médecins et infirmières ont présenté leur démission. À l'origine de la crise, le scandale financier Bernard Madoff, l'hôpital lui-même et les donatrices américaines de l'organisation sioniste féminine Hadassa avaient investi de très importantes sommes auprès de l'escroc américain. À l'heure actuelle, des négociations sont en cours pour que le gouvernement israélien renfloue les finances de Hadassa et du même coup remettre à flot la santé à Jérusalem.
Merci Michel Paul. Merci également à François Porcheron qui a réalisé cette émission. La semaine prochaine, nous parlerons d'un autre aspect du Moyen-Orient dans la guerre de 14-18. Il s'agit des révoltes des régions d'Asie centrale liées à l'Empire ottoman et à l'Empire russe. En attendant, passez une bonne semaine sur RFI.